pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe à Toulon, dans un de ces beaux établissements bien fréquentés, un ancien lycée même, au centre-ville, le collège Peiresque. Danielle se souvient d'abord d'une élève très travailleuse, adorable, accrocheuse comme elle dit, mais qui avait sans doute, précise-t-elle pudiquement, quelques difficultés. Yasmina est en troisième, elle vit dans une famille nombreuse, très nombreuse. Ses parents ne parlent pas français, ses deux sœurs sont arrivées directement d'Algérie. Elle est née en France. Malgré les difficultés, le père a toujours été attentif à installer sa famille loin des quartiers d'immigrés, des ghettos de pauvreté. Du coup, toute la fratrie passe par cet établissement à faible mixité sociale, dans le sens d'une population largement favorisée. Pourquoi, à ce moment, la prof se prend d'amitié pour cet élève plutôt qu'une autre, l'histoire ne le dit pas vraiment. Sans doute sent-elle que la jeune fille a besoin d'aide, de soutien, de liens en dehors de sa famille, pour que s'épanouisse une volonté étonnante qu'elle sent pointée. La professeure a bien compris que dans cette grande famille aussi, les filles comptent pour moitié, qu'elles sont très sollicitées par les tâches ménagères et qu'elles devront se battre pour s'en sortir. Toujours est-il que l'enseignante, une Versaillaise qui aime son métier avec la même passion que le bridge, invite son élève chez elle, lui prête des livres, lui recommande des films et d'autres livres, la prend sous son aile. Elle l'associe aux événements culturels qu'elle organise, elle l'emmène avec elle quand elle peut en sortie. Elle lui donne la simple idée qu'elle y arrivera, qu'elle fera des études, qu'elle peut réussir. Peu à peu, elle fait connaissance avec toute la famille. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, les filles de la très grande famille s'en sortiront bien mieux que les garçons, habituées qu'elles sont à lutter deux fois plus quand les garçons ne le sont qu'à se faire servir. 40 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, l'élève Yasmina a 57 ans et Danielle, la professeure, 79. Il y a à peine deux semaines, elles étaient encore ensemble. Yasmina avait invité sa professeure et amie à monter les marches du Festival de Cannes avec elle. Dans la journée, une magnifique réception était organisée sur un yacht en l'honneur du film que Yasmina a produit. Hier dans Les Pieds sur Terre, on racontait des histoires d'élèves marqués à vie par leurs profs. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui parlent d'un élève qui a changé leur vie, ou du moins qui les a marqués durablement. C'est sur France Culture par Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai commencé à ranger mes affaires, mais c'est loin d'être... Je suis un petit peu un maniaque pour garder tout. J'ai gardé presque tous mes carnets de prof. J'avais une grand-mère qui était institutrice, un grand-père mort à la guerre qui était également instituteur. Donc moi, en fait, j'étais bon élève à l'école et donc j'avais qu'une envie, c'était de transmettre mes connaissances. Voilà, donc je suis devenu prof de français.
Il était super sympa, cet élève.
J'étais plutôt le prof gentil. J'avais un collègue qui disait, André, si on lui demandait, il trouverait des circonstances atténuantes à Hitler. Ça m'a fait rigoler une fois qu'il avait dit ça.
Ben voilà, 2007-2008. Non, donc ça c'est ma dernière année, 2007-2008. Seconde 4 fleurs, voilà, je les avais.
Quand vous arrivez dans cet établissement, vous avez quel âge ?
Donc là, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, donc j'ai le sentiment que c'est mon dernier poste à la CSI à Lyon, où je pensais faire mes 10 dernières années de carrière. J'ai eu, à partir d'un certain moment, des élèves, la classe de seconde étrangère, c'est-à-dire que les deux tiers de la classe, c'était des élèves français, et l'autre tiers, c'était des élèves qui venaient d'arriver en France, et qui n'étaient donc pas francophones, dont les parents circulaient dans toute l'Europe ou dans le monde entier, voilà, plutôt classe sociale élevée. Mais aussi, c'est souvent des élèves qui avaient été ballottés d'un établissement scolaire à l'autre. Ils avaient dû basculer d'une langue à l'autre. Donc, scolairement, ils n'étaient pas forcément très adaptés. Alors, on était donc, je ne dis pas de bêtises, en mars 2007. Donc, c'était une classe de seconde, qui était plutôt une classe agréable, ça fonctionnait bien. Il y avait un élève latino-américain qui nous posait un peu problème parce que Et c'était un élève un peu instable, qui remuait. Et bon, c'était le type d'élève qui peut être intervenu 10 fois pendant l'heure de cours pour des interventions qui cherchent à être positives, mais qui en fait sont 9 fois sur 10 à côté de la plaque. Et puis à la fin de l'heure, il vient vous voir quand les élèves sortent et il dit « Ah monsieur, vous avez vu, j'ai été gentil aujourd'hui ». Alors qu'en fait, on l'a trouvé assez insupportable. Mais effectivement, il était gentil. Donc arrive le conseil de classe du deuxième trimestre où on doit commencer à préparer l'orientation de façon à déblayer le terrain. Le conseil de classe a lieu le vendredi. On laisse clairement entendre que son désir de passer en première et de rester à la CSI ne nous paraît pas du tout raisonnable. En réalité, ce qu'on pouvait envisager, c'était quelque chose comme un BEP, c'est-à-dire une formation alternée, c'était quelque chose de concret dans lequel il puisse s'investir. C'est à ça qu'on pensait, mais lui le refusait. Et là, j'étais extrêmement angoissé parce que un élève qui à notre point de vue, est en plein déni de réalité, qui refuse cette réalité, c'est une situation très pénible pour le prof principal. Donc là, il y a ce conseil de classe, le vendredi. Alors je dois aller revoir le lundi matin. Je les avais 2 heures. Je voyais bien mon élève au fond de la classe qui faisait une sale tête. Mais ça me paraissait tout à fait normal parce que bien évidemment il était au courant de ce qui s'était passé. Pendant la première heure, un moment, il me demande à sortir. Il sort avec, il met la capuche sur la tête. Et puis il revient au bout de 10 minutes. La classe se passe quand même normalement jusqu'au moment où je distribue les photocopies que j'avais préparées des textes de Molière. Et donc, je m'avance dans les rangs. Et je le vois qui se lève du fond de la classe. Je continue de distribuer. Et d'un seul coup, boum, je sens un grand coup de poing. J'ai pensé que c'était un grand coup de poing dans le ventre. Donc, je me plie en deux. Et en me pliant en deux, je vois le couteau par terre. La première chose que j'ai dans la tête, quand je vois que je reçois le coup, et que je vois que c'est un coup de couteau, c'est soulagement infini. Mon problème, c'est complètement idiot, mon problème d'orientation, mon angoisse, j'ai plus besoin de l'avoir, puisque par ce coup de couteau, il s'exclut automatiquement de l'établissement. Terminé pour moi, plus de problème, content. Je ramasse le couteau et je retourne au bureau, je pose le couteau sur le bureau. Alors évidemment, les élèves avaient vu ça, donc une espèce de grand silence dans la classe. Et je dis, bon, écoutez, il faut que vous préveniez l'administration, donc il y en a un qui va descendre, puis j'aimerais bien qu'il y en ait un autre qui descende aussi, puis qui essaye de voir où va l'élève, là, parce que, bon, l'établissement n'est pas loin du Rhône, donc moi j'avais un peu peur qu'il fasse une bêtise. Et puis, donc, les pompiers, un moment après, arrivent, ils m'ont mis dans l'ambulance, et puis, pimpon, on est parti pour l'hôpital. Là, j'ai probablement totalement manqué d'imagination. J'ai pas imaginé être en danger de mort. Je crois pas y avoir pensé du tout, en fait. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a joué des tours après, parce qu'après, j'ai bien pris conscience que s'il avait tapé un tout petit peu, enfin, c'était à pas grand-chose, il pouvait me percer le cœur, donc me tuer. Alors, l'élève, lui, sort de la classe, descend les 4 étages... se retrouve dans la rue et, semble-t-il, pratiquement tout de suite, entre dans une cabine téléphonique, puisqu'à l'époque, il y en avait encore. Il téléphone à la police et il dit « J'ai donné un coup de couteau à mon prof et mon père me bat. » Donc, la police se dérange et vient de le récupérer et le mettre à l'ombre pour un moment en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Après, il a été mis dans un établissement pour jeunes. Et il a fait quand même, il est resté, je crois, au total, ça fait 8 mois de préventive. Il a fait savoir à la juge d'instruction qui l'interrogeait qu'il ne m'en voulait pas. Mais bon, c'était un petit peu typique de lui. Ça voulait dire « je vous voulais pas de mal ». Voilà ce que ça voulait dire. Il avait pris le couteau le matin chez lui. Donc, il y avait une forme de préméditation. Mais ce dont je suis très profondément convaincu, c'est que quand il a pris le couteau, il ne savait pas qui allait le recevoir. Est-ce que ça allait être tourné contre lui? Est-ce que ça allait être tourné contre un autre prof? Contre moi, il n'y avait aucune raison. Si, j'étais le prof principal, donc ça, c'était une bonne raison, entre guillemets. Mais bon, j'avais de bonnes relations avec lui, et je pense qu'il m'aimait bien, et moi, je l'aimais bien aussi. Et effectivement, je le savais qu'il me voulait pas de mal, et moi, je sors de l'hôpital au bout de 5 jours, c'était les vacances de printemps, donc ça me fait une semaine de repos. J'ai repris le travail normalement après, avec la classe. Je redeviens un prof tout à fait normal, en fait. Il y a des collègues qui m'ont dit « Mais t'as pas peur d'entrer dans la classe ?» J'ai dit « Non, pourquoi j'aurais peur ?» Par contre, oui, des insomnies, ça dure toujours. Alors moi, ça, c'est vrai que ça a un petit peu démarré. Ça n'a pas démarré tout de suite. Hein. Ça a démarré 6 mois après, où j'ai fait 2 ou 3 nuits blanches complètes, sans dormir du tout. J'ai fait une espèce de déprime, qui était sans doute quand même en rapport avec l'affaire. Parce que progressivement, je me suis rendu compte, mais je pense que c'est ce que chacun de nous, en vieillissant, prend conscience de ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est mortel. Mais là, le coup de couteau, après coup, m'a fait prendre plus fortement conscience de ça. Et donc, voilà... La mort et toutes les angoisses qui peuvent accompagner l'idée de la mort, tout ça c'est devenu beaucoup plus présent. Alors arrive le moment du procès, donc c'était un moment que j'attendais quand même. Donc son geste, il l'a jamais pu l'expliquer, parce qu'à mon avis, il n'était pas explicable. Il a tenté de l'expliquer comme un appel au secours, mais il avait un espèce de discours psychologisant qu'il avait ramassé, je ne sais pas trop où. Il parlait de maltraitance par rapport à son père, mais en fait, ils ont fait des recherches jusqu'en Amérique du Sud pour essayer de vérifier ça, auprès de la famille, etc. Et apparemment... il n'y avait pas de maltraitance, en tout cas physiquement. Il avait fait, si je ne me trompe pas, 8 mois de préventive. Donc il a été condamné à 1 an de prison, dont 4 mois avec sursis. Donc en fait, il se passait. Et moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais surtout pas qu'il retourne en prison.
Vous ne cherchiez pas qu'il paye particulièrement? Vous n'étiez pas dans cette démarche-là?
Non, pas du tout. Non. J'avais appris qu'il était en apprentissage, qu'il était en train de se construire, qu'il avait une copine, qu'il habitait dans un logement social tout seul, c'était séparé de la famille, qu'il voyait plus son père. Et je pensais que c'était une bonne chose, en fait. Donc le remettre en prison, même pour 15 jours, 3 semaines, c'était prendre le risque de le faire replonger. Donc.
Mais vous vouliez le protéger, en fait. Vous continuez de vouloir être son... prof?
Oui, j'avais ce rapport-là avec lui encore. Et donc, à la fin, l'avocat vient vers moi et me demande si je veux bien parler avec lui. Donc moi, j'attendais que ça, en fait. Et on sort, donc tout le monde sort tranquillement, et puis on s'éloigne un petit peu dans les couloirs. Et... là, l'une des premières choses qu'il me dit, donc on s'arrête et on se regarde face à face, il me regarde, ça va ? Alors, je lui dis, oui, tu vois bien, je suis en bonne santé. Puis je lui dis, mais des fois, j'ai un peu du mal à m'endormir. Et là, il me regarde et il fait plus son sourire un peu artificiel, un peu comédien en fait. Il prend un air plus authentique et il me dit, vous savez, moi aussi j'y pense toujours. Le seul regret que j'ai, c'est que bon, ce contact, ça s'est arrêté là. J'aurais pu lui donner mon adresse, lui dire j'aimerais qu'on se voit en dehors. Ça, je ne l'ai pas fait. Lui, il n'a pas osé le faire non plus. Et je pense d'un côté comme de l'autre, c'est un peu normal. Ce que, au fond, à la limite, ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais encore, si ça arrivait, c'est le rencontrer par hasard. Rencontrer par hasard dans la rue, le reconnaître, qu'il me reconnaisse, et qu'on aille boire une bière ensemble, et là qu'on discute et qu'on se raconte des tas de choses, sans doute. Parce que quand même, je ne sais pas si je dormirais mieux après, mais je pense que ça me ferait une clôture.
Bon, vous aimeriez qu'il vous dise « je vais bien, quoi, ma vie
est... » Exactement. Oui, c'est ce que j'aimerais, qu'il me dise « je vais bien ». S'il pouvait même me dire que le coup de couteau servait à quelque chose, ça serait une très bonne chose.
Quand j'étais au lycée... Pour moi, les profs, c'était des poupées de cire. Enfin, c'était des gens qui n'avaient pas d'existence en dehors de l'établissement scolaire. J'avais un respect immense, vraiment un respect et une crainte de mes enseignants. Et je ne pouvais pas m'imaginer qu'ils avaient une vie en dehors du travail, qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des loisirs, une maison, un mari, qu'ils partaient en vacances. Pour moi, un prof, c'était quelqu'un qui était en dehors du monde et de la société. Je trouvais ça dommage parce que finalement, je ne me serais pas permise de communiquer avec eux, pas vraiment non plus avec moi ou avec nous. Et je sais que quand je suis devenue enseignante, je me suis fait la promesse que je ne serais pas comme ça. Que je serais quelqu'un qui serait proche, qui aurait un vrai contact et qui ne serait pas juste une fonction, quelqu'un avec un masque devant ses élèves. Moi, j'ai tendance à leur dire facilement, tout début d'année, qu'ils peuvent venir me parler, que je suis pas une icône et que je suis avant tout une personne et que s'ils ont besoin de se confier ou qu'ils ont des soucis, quel que soit l'ordre de ces soucis, ils peuvent venir m'en parler. Et donc, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore d'être en lien avec des élèves avec des comportements suicidaires, par exemple, ou des élèves qui sont complètement en rupture familiale. C'est difficile de faire la part des choses. On ramène le travail dans sa sacoche. Et on finit par ne plus savoir où est la limite entre le professionnel et le privé. En gros, je dirais que c'était en 2015 où j'ai vraiment craqué. J'avais une classe de 6e dans laquelle il y avait une élève qui était complètement mise à l'écart. Les autres se moquaient d'elle, elle se mettait elle-même en retrait, et j'ai essayé à plusieurs reprises de l'aider, et en fait je me suis vraiment heurtée à un mur. J'avais l'impression que finalement c'était moi qui m'inquiétais, et qu'en face de moi il y avait juste de l'incompréhension. Cette élève, elle n'a pas compris pourquoi je m'inquiétais pour elle. Elle a assez mal pris la chose. Et là, je me suis dit, pourquoi tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Finalement, on est face à des situations et on n'a aucun pouvoir. On n'est pas utile. On ne sert à rien. Et ça m'a complètement ébranlée dans la foi que j'avais dans le métier, et particulièrement dans l'aspect social de la profession, finalement. Et puis, j'ai convoqué cet élève-là, qui était, à mon avis, en souffrance. Hein, je l'ai convoqué à la fin de l'heure. Et puis, donc, je me suis heurtée vraiment à un mur. Hein, c'est tout juste si elle m'a répondu. Et je suis sortie faire une pause dehors. Et là, je me suis effondrée, en fait. Je me suis mise à pleurer. Et puis, il y a des collègues qui sont arrivés, qui m'ont demandé ce que j'avais. Donc, sur le coup, j'étais incapable de formuler une réponse cohérente. En plus, ça avait l'air tellement anodin. C'était difficile de résumer... tout ça en quelques mots. Puis finalement, c'est une des assistantes d'éducation qui m'a dit « Écoute, j'appelle le cabinet médical, je te prends un rendez-vous, tu remontes pas en cours, c'est hors de question, il faut que tu t'arrêtes, t'es épuisé, t'es fatigué. » Et certains collègues m'ont dit « Tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu considères que quand tu vas travailler, t'enfiles ton uniforme et tu quittes ton uniforme à la fin de ta journée. » Et je leur ai dit, mais moi je suis incapable de me scinder en deux, je ne peux pas mettre d'un côté l'enseignante et de l'autre la personne humaine. Moi quand je suis devant mes élèves, je suis comme je suis dans la vraie vie, ils le savent d'ailleurs, sans masque, sans phare, et puis voilà, donc je me suis fait arrêter, bon, pas longtemps, parce que c'est aussi difficile de couper. Et j'avais mis à profit cette semaine où je me suis arrêtée pour dormir beaucoup déjà. Et c'est vrai que je suis allée voir sur des forums, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des témoignages de collègues qui avaient quitté l'enseignement, d'autres qui comptaient le faire. Ça a été vraiment le doute à cette période parce que je me suis dit, d'un côté c'est vrai que ça fait envie d'envisager complètement autre chose. Un métier sans cette pression, avec des coupures franches entre la vie professionnelle et la vie privée. Puis d'un autre côté, je me suis dit, on va où si tout le monde quitte le bateau, finalement ? Si tout le monde abandonne, si tout le monde baisse les bras, qui va rester sur place ? Mais maintenant, si je devais me prononcer, je dirais que j'ai complètement accepté l'idée que je vais rester prof. Le déclic, c'était en 2016. C'était donc une élève qui était en classe de 3e. À l'époque, j'avais deux classes de 3e. Une avec laquelle ça marchait de manière extraordinaire. Tout était facile, tout était acquis. Et puis l'autre où, c'était compliqué. L'alchimie s'est pas faite entre eux et moi. Alors, il y avait un climat désagréable qui se créait parce que moi, j'étais mécontente. Du coup, ils se disaient, la réaction typique des élèves, hein, la prof nous aime pas. Et alors ça, quand ils se sont dit « la prof ne nous aime pas », c'est fini. Là, il faut vraiment sortir les rames pour avancer. Et moi, de mon côté, je me disais aussi « ils n'aiment pas venir en cours avec moi. Pourquoi ?» J'échangeais beaucoup avec d'autres collègues qui, eux, trouvaient que c'était une classe sympathique. Donc forcément, je me disais « mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ?» Et j'ai complètement focalisé sur cette classe. Surtout que l'année d'avant, donc j'avais eu cette rupture vraiment professionnelle et puis ce burn-out. Et donc, j'allais vraiment avec eux en me disant « comment ça va se passer cette fois-ci encore ?» quoi. Et au milieu de cette classe, il y avait une élève qui était très douée dans toutes les matières, et puis en allemand particulièrement, mais qui ne participait pas. Il fallait toujours que j'aille la chercher. J'avais remarqué aussi qu'elle était beaucoup en retrait, mais qu'elle avait cette façon de pas vous lâcher du regard, finalement, d'être toujours là, ce qui fait qu'on se sentait attiré. Et puis quand, par exemple, il y avait des moments d'agitation dans la classe, je savais qu'elle, je pouvais... Si je croisais son regard, ça allait m'apaiser, parce que je me disais, il y en a quand même quelques-uns, au moins une en particulier, qui écoute, qui s'intéresse, donc c'est pas fichu. Je me suis renseignée sur elle, je trouvais qu'elle avait quand même souvent l'air triste et elle demandait aussi régulièrement à sortir de la classe. Alors on a eu une période où il y avait beaucoup de jeunes filles qui faisaient des crises de spasmophilie, donc au bout d'un moment on a fini un petit peu par être un peu blasé à se dire bon d'accord, allez, encore une qui fait des crises de spasmophilie. Mais elle devait quand même sortir assez régulièrement, puis on voyait que des fois elle avait l'air de paniquer. Et puis là j'ai appris en fait qu'elle avait vécu un drame familial. Elle avait perdu son papa quelques années auparavant, de manière assez brutale. Et puis dans la foulée, elle avait perdu son oncle. Et donc elle était très marquée par ce décès, elle était très très proche de son père. Et je me suis dit, je vais lui écrire un petit mot pour lui dire que j'ai l'impression qu'elle va pas bien et que si elle veut... je suis là si elle a besoin de parler. Et donc je lui ai écrit effectivement un courrier assez court que je lui ai donné en fin d'heure. Donc elle était surprise. Et elle est repartie. Et puis au cours suivant, c'est moi qui ai eu la surprise de me voir remettre une lettre. Une première lettre, parce qu'il y en aura eu beaucoup d'autres après. Dans ma lettre, je pense que j'avais dû lui expliquer que je pouvais comprendre éventuellement sa détresse parce que moi aussi je savais ce que c'était que de me retrouver dans une situation inconfortable ou une situation de détresse. Et donc quand elle m'a répondu, elle m'a dit que oui, effectivement, elle l'avait perçu. Et on a commencé à avoir un échange finalement là-dessus et à se consoler, à donner un retour à l'autre finalement sur les impressions. Elle me disait, je crois, des choses que tout enseignant aimerait entendre, quoi. Alors au début, elle m'appelait par mon nom, en mettant souvent Cher. Voilà, et puis maintenant elle met mon prénom quand elle m'écrit. Je pense que nous avons beaucoup progressé grâce à vous et à la passion que vous mettez dans votre travail, avec une implication hors pair et de la combativité afin de nous faire vibrer au rythme de vos idées, défendues avec fierté. Je pense que rares sont les professeurs qui s'impliquent autant que vous. Aussi, je vous admire d'autant plus pour ça. J'ai pensé chacun des mots que ma plume a alignés sur papier, et je pense être quelqu'un d'assez lucide pour voir que vous êtes réellement et profondément quelqu'un de bien, que ce n'est pas qu'une façade. Je pense que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Je le conçois et le comprends très bien. On ne peut pas dire que sur ce plan, je sois un modèle. Vous faites ce qu'il faut pour nous, et ne vous croyez pas ordinaire, car ce n'est pas le cas. Je me suis dit, si elle arrive à voir ça, c'est que vraiment je dois renvoyer quelque chose, je dois rayonner quelque chose. Et donc je me suis dit, ben finalement c'est peut-être pas si inutile ce que je fais. Finalement non, notre métier c'est peut-être pas nul, et oui, peut-être qu'on a vraiment une utilité pour des jeunes. C'était vraiment ça, elle mettait l'accent sur le fait que je leur apportais humainement quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire dans cette relation, c'est que finalement... c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, quoi. On tend la main à quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'il a besoin d'aide, et puis en fait, on le fait parce que soi-même on a besoin d'aide, et qu'on se dit, ce serait tellement, tellement bon d'avoir quelqu'un qui nous tend la main. Et là, ça se produit, c'est magique. Puis ce qui était magique, c'est de se dire, finalement, ça vient d'une personne qui a la moitié de mon âge, qui n'a pas l'expérience que j'ai, qui n'a pas le recul que j'ai, mais... Elle en sait presque autant, et puis elle a trouvé les mots. Finalement, c'est ça, on pourrait résumer ça par le pouvoir des mots, hein, cette relation épistolaire.
C'est la peur ou le manque qui se plante de toi. La vie tombe, longue l'attente pour qui n'attend pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un élève pour La Vie, un reportage de Karine Lelouette, réalisé par Cécile Lafont. Merci à André, à Marielle et à son élève. Merci aussi à Caroline, à Gaëlle, à Samuel, à Florence, à Julie, à Jean-Philippe, à Margot et Alexia du réseau Être Prof. Merci également à Yasmina et à Daniel. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Cécilie Nautin, notre stagiaire. Dès maintenant, dès aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à notre nouveau podcast documentaire. Ça s'appelle Ma fille sous influence. C'est l'histoire d'une mère qui essaie de comprendre sa fille qui est tentée par l'islamisme radical, voire plus que tentée. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les bonnes plateformes ou applications de podcasts.